Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition spéciale du podcast Extraterrien pour la mensuelle dédiée à la préparation mentale. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'admire beaucoup et que je suis très content de recevoir. Il s'agit de Pierre David. Salut Pierre.
Salut Bart.
Écoute, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui. On a déjà fait un épisode avec toi dans lequel tu t'es présenté. On a décortiqué un petit peu ton travail et ton entreprise, l'Académie de la Haute Performance que tu as depuis 2018. Mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que je peux te demander quand même un petit peu de te présenter et de préciser en quoi tu es crédible aujourd'hui pour nous parler de préparation mentale.
Ouais, bah déjà Bart, merci pour cette invitation, je suis vraiment content de faire cette série avec toi. Du coup, bah moi j'ai les fondateurs de l'Académie de Haute Performance, donc Pierre David, ancien sportif de haut niveau, 5 finales de championnat de France à mon actif et une seule victoire, non pas grâce mais à cause du mental. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, mon rêve c'était d'être en équipe de France, j'y étais tous les ans, mais dès que j'arrivais en finale, paf, dans les vestiaires, en fait, j'étais pas dedans. Et donc, j'ai commencé à me former. Déjà, en équipe de France, on a de la sophrologie. Après, je suis allé sur l'hypnose. Et j'ai fait plein de choses comme ça. Et toutes les choses, donc sophrologie, méditation, hypnose, ça avait amélioré les choses, mais ça n'avait pas résolu mon blocage de fond. Donc, j'ai continué à me former. Je suis notamment parti 20 jours en méditation. J'étais moine en méditation vipassana. Donc, sans lire, sans écrire, sans parler. Là, j'ai eu un premier déclic. Et après, je me suis beaucoup formé, notamment aux États-Unis avec le docteur John DeMartini. Là, à un moment donné, sur un process, en fait, j'ai fait « Ouais, mais attends, mais là, c'est exactement le blocage que j'avais en tant que sportif. » Et donc, j'ai commencé avec un sportif, deux, trois, jusqu'à séquencer une méthode en cinq séances avec un programme à côté, qui fait qu'aujourd'hui, on a eu des résultats qui étaient vraiment top. Et là, voilà, donc ensuite, j'ai déposé le nom Dépolarisation, fondé l'Académie de l'Haute Performance. Et aujourd'hui, c'est plus de 600 sportifs à l'heure où on tourne qui ont été accompagnés, 4 médaillés aux Jeux Olympiques de Tokyo, une à Pékin. Et voilà. Et pour l'anecdote, le préparateur mental des équipes de France de boxe que j'avais à l'époque s'est formé aujourd'hui en dépolarisation et fait de la dépolarisation en salle de boxe française et notamment a fait le préface de mon dernier livre Préparation mentale gagnante. Donc voilà.
Ok, un beau parcours. Et effectivement, je me permets en plus, tu as d'ajouter que tu as accompagné de nombreux athlètes qu'on a pu interviewer du coup sur le podcast extraterrestre. Je pense effectivement à Sarah Balzer, à Laura Tarantola ou à Johan Koval pour ne citer que. Mais il y a eu toute une série, je remettrai les liens dans la description pour les curieux parce qu'on a vraiment pu parler de préparation mentale de façon très poussée avec eux. Et on voit que tu as eu un gros impact. Et il y a eu aussi deux livres qui, moi, m'ont beaucoup marqué, L'identité gagnante et La préparation mentale gagnante. Je trouve qu'ils sont, pour moi, des livres de référence sur la préparation mentale. Donc, j'encourage tout le monde à les lire. Et puis, je crois, après, on va lancer l'épisode, mais dernier petit... appel à l'action pour les auditeurs qui seraient intéressés. Je crois qu'on peut prendre rendez-vous gratuitement avec votre équipe, c'est ça ?
C'est ça, ouais. On a des conseillers qui sont disponibles. Voilà, on peut prendre un rendez-vous offert d'une trentaine de minutes avec un conseiller d'équipe.
Bon, écoute, trop bien. On va lancer le sujet aujourd'hui et on va essayer de délivrer un maximum de valeur aux auditeurs. L'idée, c'est à la fois de comprendre des concepts, aussi de pouvoir avoir des petites clés, des petits outils pour progresser soi-même et de comprendre en quoi, si on travaille avec un préparateur mental, si on travaille avec vous, qu'est-ce que ça peut apporter en plus de ce travail un peu solo, parce qu'on peut aussi avancer solo, mais souvent il faut pour passer un cap aussi se faire accompagner. Et aujourd'hui, j'avais envie vraiment de parler des blocages fréquents et récurrents que tu vois à la fois chez les athlètes de haut niveau et aussi chez les athlètes peut-être un peu plus amateurs ou semi-professionnels. J'aime bien dire athlètes semi-professionnels, pour moi c'est les athlètes qui s'entraînent tous les jours, en tout cas qui s'entraînent vraiment de manière très très régulière et qui vont participer à des événements importants, mais qui peut-être n'en vivent pas encore et ont un métier. Je crois que un des problèmes dont tu parles beaucoup et que tu abordes souvent dans les livres, c'est l'arrogance. Qu'est-ce que tu vois chez les athlètes avec l'arrogance ?
Ouais, c'est là, pour moi, c'est le blocage principal. C'est 80% des athlètes qu'on accompagne, c'est ce blocage-là. Et c'est celui qui fait qu'on a la distinction aussi par rapport à toute préparation mentale qui se fait. Et c'est le blocage que j'avais aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode, vous êtes athlète, peu importe le niveau, que ce soit au niveau amateur, sportif de niveau, et même chez les entrepreneurs, c'est la même chose. Si vous sentez qu'il y a des choses où vous sentez qu'il y a tout le potentiel, mais vous sentez que vous êtes bridé, eh bien, je suis prêt à parier que vous êtes polarisé, notamment sur l'arrogance. Donc, l'arrogance, c'est quoi ? C'est, on va dire, quel est le trait de caractère qui t'agace chez les autres ? Comme par hasard, bingo, c'est l'arrogance. Et donc, en fait, c'est important à comprendre que nous, on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, mais des êtres humains. En tant qu'être humain, on a toutes les identités. Donc ça, c'est le premier déclic que j'avais eu quand j'étais chez les moines en méditation vipassana, où je suis parti pour répondre à ces questions « Qui suis-je ?» Et là-bas, au 14e jour, j'ai eu ce déclic en mode « Ok, mais je suis tout, en fait. » Et à chaque fois que je dis « Je suis arrogant », c'est comme si j'allais dire « Je suis ouest ». Je suis toujours ouest et est. En fait, c'est comme si je disais « Ouais, je suis ouest », mais t'es tout le temps à l'ouest de quelque part et à l'est d'autre part. Ok, donc en fait, quand on va dire arrogant, on va créer le concept d'arrogance et forcément, on va créer son anticoncept qui va être l'humilité. Donc, pour les athlètes, ils vont dire « Ouais, mais pour moi, c'est important d'être arrogant et donc, non, c'est important d'être humble et donc, faut pas être arrogant. » Et donc, en réprimant cette partie-là, eh bien, des fois, ils vont pas s'autoriser à dire « Mais moi, j'ai envie d'être premier. » Parce qu'ils vont dire « Mais ça se fait pas, c'est arrogant de dire ça. » Et donc là, en fait, il va se passer quoi ? Il va y avoir le conscient va se dire « Ah, j'aimerais bien aller être champion du monde, par exemple. » Mais le subconscient, le corps, ne va pas autoriser le passage à l'action. Et c'est là où ça bloque. Et donc là où on va vraiment faire, nous, les dépolarisations, c'est vraiment de travailler sur enlever ce blocage d'arrogance. Et non, en fait, je suis pas arrogant. Je dis juste mes objectifs à voix haute et c'est OK, en fait. Et comme ça, on va pouvoir se libérer. Et là, en parlant, j'avais l'exemple de... Ouais, je peux le citer parce qu'il en parle souvent, de Johan, justement, Kowal. Et c'est son sponsor de l'époque qui me l'avait envoyé. Et je lui ai dit, mais je te parie qu'il est polarisé sur l'arrogance. Et ça n'avait pas loupé, première séance. Qu'est-ce qui t'agace à l'arrogance? Et forcément, c'est important d'être humble. Et finalement, en travaillant ça, bah, derrière, baf, il a pu performer derrière ça. Donc ça, c'est le premier blocage. Ouais.
Ok, mais c'est marrant parce que je le retrouve aussi chez quelques entrepreneurs aussi, dans les sphères un petit peu entre entrepreneurs ou créateurs de contenu, on peut vite trouver un peu agaçant ce qu'on aurait tendance à trouver un peu arrogant. Donc c'est un point commun qui est similaire. C'est beaucoup lié quand même au regard des autres, hein, si on essaye un peu de déconstruire. C'est l'arrogance, c'est vraiment le regard qu'on porte sur les autres.
Oui, carrément. En fait, justement, quand j'étais en Vipassana, là, en Thaïlande, j'ai vu qu'il y avait... qui je suis, c'est le monde de l'essence et j'ai la possibilité d'être tout, mais je suis dans un monde d'existence. Et exister, existar, c'est être à l'extérieur. Donc, dans le monde d'existence, je vais exister qu'en relation aux autres. C'est-à-dire, je vais pouvoir savoir qui je suis que par rapport à des gens que je vais juger et je vais dire, bah, je suis pas comme eux. Et donc, en percevant des gens arrogants, bah, je vais me dire, ah non, mais moi, je suis humble. Et tout ce que je juge à l'extérieur, je vais avoir peur d'être jugé de la même chose. Donc, si je juge les gens d'arrogants et je dis c'est mal d'être arrogant, je vais avoir peur d'être jugé arrogant. Si je dis j'aime pas les gens égoïstes, eh bien, je vais avoir peur d'être jugé égoïste. Et du coup, bah, forcément, dans le sport et notamment dans le sport de haut niveau, à partir d'un moment, moi, par exemple, c'était normal pour moi de dire je serai en équipe de France. Et pourtant, pour certains de mon club, bah, c'était arrogant de dire ça de leur point de vue, mais ça, je voyais pas. Et par contre, quelqu'un d'autre qui disait bah, « moi, je vais être champion du monde », je percevais ça arrogant. Donc tu vois, c'était juste une échelle. Mais par contre, le trait de caractère pour moi d'arrogance, bah, c'est le fait de ne pas être capable de se dire bah, « ouais, moi, je vais aller au champion du monde » et d'avouer mon désir à haute voix qui faisait qu'en finale, boum, j'étais bridé. Et ça, on l'a vu aujourd'hui sur plein d'athlètes comme ça. Et simplement en enlevant ce blocage-là, en se disant bah, « ouais, mais mon objectif finalement, c'est d'être champion du monde » ou peu importe, ça peut être champion départemental, on s'en fiche, ou à partir de quel niveau ça bloque. Juste le fait de débloquer ça et de s'autoriser à dire bah, « mon objectif, c'est d'être champion départemental, du monde, olympique, peu importe, mais et j'ai le droit en fait, j'ai de mal à personne. » Juste de s'autoriser à le dire à haute voix et de sentir que quand je le dis, bah, mon rêve est d'être champion olympique, de sentir que le corps valide, c'est-à-dire c'est fluide, eh bien là on sait que le corps valide que l'objectif est bon pour nous. Si à haute voix vous n'êtes pas capable de dire mon objectif est d'être champion de France par exemple, c'est que le corps ne valide pas l'objectif. Et donc il y aura toujours ce conflit entre le conscient et le subconscient et c'est très souvent le subconscient qui gagne.
Ok. Super, en plus ça donne des petits conseils très pratico-pratiques, effectivement dire à haute voix son objectif et aussi peut-être le dire à ses proches, à son entourage et de voir un peu comment le corps réagit, est-ce qu'il est à l'aise, est-ce qu'il est aligné et est-ce qu'on ressent aussi peut-être un peu de la peur du regard des autres. Ouais.
Exactement, et justement là c'est avec les championnats de France là, qui arrivent dans une discipline et avec une fille avec qui j'ai travaillé, bah, c'est marrant parce que quand elle était polarisée aussi encore une fois sur l'arrogance et la prétention, donc c'est à peu près la même chose et là lorsqu'on a reparlé dernièrement elle dit ouais bah c'est normal en fait pour moi si je suis championne de France. Et là, ok, boum, je sais que c'est bon. Donc, on ne sait pas si elle le sera. Ça, on ne peut pas le savoir, c'est le résultat. Par contre, on sait qu'il n'y a plus de blocage intérieur parce que c'est normal pour elle. Et tout ce que le subconscient valide comme normal, il le manifeste sans effort. Et donc, c'est important du coup de se dire, bah oui, c'est normal d'être champion de France, champion d'Europe, champion du monde par rapport à votre objectif qui est fixé. Parce qu'une fois que c'est normal, on sait que c'est bon, le corps est engagé.
Ok. J'ai une dernière question justement sur l'arrogance et après on passera à un blocage suivant. J'ai l'impression en t'écoutant que ce blocage, il arrive régulièrement quand on parle d'un objectif qu'on n'a pas encore atteint ou sur lequel on se sent pas crédible. Tu vois, dans ton exemple, bah effectivement, l'équipe de France, tu l'avais eu plusieurs fois. Pour toi, du coup, c'était devenu quelque chose de naturel, normal. Et à l'inverse, bah effectivement, devenir champion du monde, bah là, c'est quelque chose que t'as pas fait et que du coup, tu te sens pas crédible. Est-ce que c'est du coup, d'une manière ou d'une autre, lié à un syndrome de l'imposteur ou lié à une peur de l'inconnu d'un objectif qu'on n'a pas encore rempli?
Ouais, c'est la... C'est vraiment proche du syndrome de l'imposteur aussi qu'on retrouve en entrepreneuriat. Pour moi, c'est vraiment assez proche. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment ça. C'est une fois qu'on a fait l'objectif, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bah, hop, c'est normal. Et là, on se dit, mais c'est bon, en fait, ça valide. Par contre, chez les athlètes, des fois, on a pu remarquer certains athlètes qu'on fait une fois champion du monde, mais derrière, boum, ils ne performent pas. Et ils ont eu le titre de champion du monde, mais ils vont se dire quoi ? Ouais, mais c'était de la chance.
Ouais.
Donc, on sait que là, ce n'était pas normal pour le subconscient. Et donc, derrière, ils n'arrivent pas à reproduire les choses. Donc c'est là où c'est important que l'objectif soit normal quand on le dit. Ouais.
Ok.
Ouais. Donc tant que c'est pas normal, c'est qu'il y a une polarité quelque part, qu'il y a un grain de sable qui vient enrayer la machine.
Ok.
C'est dommage.
Bon bah écoute, super, en tout cas moi ça me parle beaucoup parce que je sais que d'un point de vue entrepreneurial, notamment via tes livres et ses lectures et faire ces petits exercices sur moi et d'accepter tout simplement mes ambitions et de pas avoir peur de les dire et de les vivre, bah ça a été un gros déblocage, donc je te remercie pour ça. Le deuxième blocage, je crois que tu vois régulièrement, tu me le disais juste avant qu'on commence l'épisode, c'était la peur d'échouer. Tu peux nous dire d'où ça vient, expliquer un petit peu c'est quoi la peur d'échouer tout simplement?
Ouais. Alors, la peur d'échouer, si on regarde c'est quoi, tout simplement, c'est percevoir que échouer va apporter plus d'inconvénients que de bénéfices, tout simplement. Là, je prends l'exemple d'Alexandra aussi que tu avais interviewé en karaté. Je me rappelle, on avait travaillé avec elle avant le tournoi qualificatif des Jeux Olympiques. Et là, genre, quintuple championne du monde, tu vois, karaté, genre, truc de dingue. Et là, elle arrive sur une phase où contre-performance, essaye de la prep mentale et ça change rien. Du coup, c'est une de ses copines qui l'oriente vers nous, vers l'académie. Et quand on bosse ensemble, c'est OK, t'as peur de quoi, en fait? Bah, j'ai peur d'aller au jeu. OK, si tu vas pas au jeu, il va se passer quoi? Bah, ça va être la fin de ma vie, quoi. Attends, mais tu te rends compte, j'ai tout gagné, il manque juste ça. Je peux pas, en fait, ne pas y aller. Donc, là, on sait que quand on a peur d'échouer, c'est qu'on perçoit plus d'inconvénients que de bénéfices. Et comme elle le dit, elle le dit aussi, ma peur d'échouer t'est devenue plus forte que mon envie de gagner. Donc, à ce moment, le corps, il fait quoi? Le corps, il a commencé à associer. C'est encore une fois, c'est consciemment, j'ai envie de gagner, mais au niveau du subconscient, vu qu'il a associé plus d'inconvénients que de bénéfices, eh bien, il ne va pas engager le corps. C'est comme s'il y avait le cavalier qui veut aller vers l'obstacle et le cheval, il a peur et du coup.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Il est en train, tu vois, il est en train de pousser en arrière pour pas sauter. Donc là, c'est la même chose. Donc là, le but sur cette peur d'échouer, c'est d'aller voir que l'échec, déjà, nous, on valide que ça n'existe pas. Et ça, on peut le retrouver le témoignage de Chloé Trespech, médaille olympique, qui est dans le livre Préparation mentale gagnante, où elle témoigne. Elle fait, aujourd'hui, j'ai plus peur de cet échec. Pourquoi? Parce que l'échec, c'est simplement quelque chose à court terme. Ok, l'échec, ça n'existe pas. L'échec, ça va exister qu'en relation à un résultat qu'on attendait. Donc l'échec, on peut le dire, c'est on n'a pas atteint notre résultat, donc qui est la forme attendue dans un espace et dans un temps. Par contre, si on prend de la hauteur, dans l'altitude, on va voir que cet échec finalement était bien, était serviable pour l'avenir. Si on prend l'exemple de Chloé, après on va reboucler sur Alexandra, si on prend l'exemple de Chloé qui dans les championnats, je crois que c'est les Jeux Olympiques de, je sais plus c'était lesquels, en 2018 en...
Pyongyang, non.
Ah ouais, c'est ça, exactement. Du coup, elle tombe à 10 mètres de l'arrivée, de la ligne d'arrivée pour une médaille, donc elle est privée de médaille, quoi. Alors qu'elle...
Souvenir, mais enfin, une image assez, assez marquante, ouais, pour les fans de sport.
Ouais, c'est ça. Et du coup, on travaille, et quand on commence à bosser ensemble, elle fait, non, mais Pierre, c'est hors de question qu'il me arrive la même chose à Pékin. Et donc, déjà, la première chose qu'on a fait, c'est, on a regardé tous les bénéfices qu'il y avait eu à cet échec-là. Mais on a, et c'est pas bénéfice en mode, ouais, ok, je vois les bénéfices, mais quand même, au choix, j'aurais préféré avoir une médaille. On a vraiment creusé bénéfices pendant plus d'une heure et demie. Et inconvénient s'il n'y avait pas eu cet échec, jusqu'à ce qu'il y ait le collapse qui se passe. Donc le collapse, c'est quand on a ce petit éclair dans la tête, donc c'est vraiment au niveau du cortex préfrontal où ça connecte, on synthèse des opposés, on sort de vraiment de l'émotionnel, et là il y a cet éclair de, on voit l'ordre caché dans le chaos qui était apparent, et elle fait waouh, mais en fait encore heureux qu'il y a eu ça, parce que grâce à ça je travaillais ça, et j'aurais jamais fait si c'était pas arrivé. Et finalement, comme elle le dit dans le bouquin, bah, si cet échec n'était pas arrivé, elle aurait peut-être pas été aussi forte pour aller chercher une médaille d'argent à Pékin. Donc c'est vraiment se dire, ok, à chaque fois que j'ai perçu un échec dans ma vie, eh bien je vais aller les voir dans le passé et je vais noter tous les bénéfices que c'est arrivé et tous les inconvénients si c'était pas arrivé. Et déjà en faisant ça, si on le fait sur 3-4 échecs, quand on va regarder la peur de l'échec futur, ça va être atténué. Parce que le subconscient va se dire, mais attends, mais à chaque fois que j'ai échoué, il y a eu des bénéfices. Tu vois, à chaque fois que j'ai échoué, j'ai gagné. Tu vois. On essaie de créer cette association-là au niveau du cerveau. Et du coup, bah forcément, quand on regarde le futur, on n'a plus peur. En général, c'est rare qu'il y ait des peurs du futur sans référentiel passé. Pour Alexandra, du coup, on était allé directement sur la peur future. Et c'était, OK, c'est quoi les bénéfices pour toi si tu ne vas pas au jeu, en fait?
Et là, elle fait, mais tu te rends compte, c'est pas possible. Pierre, c'est la fin de ma vie si je fais au jeu. Et du coup, la séance, elle avait duré longtemps. On est en train de noter. On a dit, OK, t'as 60 ans, tu regardes ta vie et tu te dis, tu sais quoi, à 30 ans, c'est vrai que c'était horrible, je suis pas allé au jeu, mais finalement, tant mieux. Ce serait comment, tu vois? Jusqu'à temps qu'on trouve, qu'on trouve, qu'on trouve. Et à un moment donné, paf, elle lâche, elle voit, en fait, elle voit qu'en effet, il y aurait des cadeaux si c'était ça. Et que si elle allait au jeu, bah, c'était bien. Si elle y allait pas, c'était bien aussi, en fait. Et il n'y avait pas de préférence. C'était juste de forme de vie qui l'attendait différemment. Je sens que ça lâche. Et derrière, en fait, c'était quoi? C'était 2 semaines après, elle a reperformé, je sais plus c'était quelle compétition. Et ensuite, 4 ou 6 semaines après, elle a vraiment reperformé à Johannesburg où elle avait perdu contre la championne en titre, quoi. Donc la peur de l'échec, c'est ça. C'est simplement croire qu'il va y avoir plus d'inconvénients que de bénéfices à ce qui va m'arriver. Et donc, c'est là où c'est important de voir les choses sur du long terme et pas s'arrêter sur du court terme.
Ok. Ouais, et puis je vois le super exercice que tu donnes, c'est de regarder des échecs a posteriori, d'essayer d'y trouver un bénéfice.
Ouais.
Et déjà, rien qu'en faisant ça, naturellement, l'objectif futur fait moins peur.
C'est
et
clair.
En tout cas, on se détache un peu émotionnellement d'une défaite ou d'un échec.
Ouais, exactement. Ouais, okay. C'est ça.
Tu sais, on entend souvent cette phrase, je crois que c'est de Nelson Mandela, tu vois, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Cette phrase, on la répète à tort et à travers, presque. Comment est-ce que les athlètes, ils la perçoivent? Tu vois, est-ce qu'ils arrivent vraiment à se l'approprier? J'ai l'impression que non. Tu vois, s'ils font cet exercice avec toi.
Ouais, bah, en fait, c'est important où on peut aller sur le truc en mode soit je gagne, soit j'apprends, Nelson Mandela, et l'échec n'existe pas. C'est des choses qu'on peut entendre qui restent intellectuelles. Mais au choix, quand même, j'ai envie de gagner, tu vois. Et en fait, alors que quand on va vraiment creuser bénéfice, mais peut-être en noter 50 et on lâche pas la feuille, des fois, bah, je me rappelle avec Alexandra, ça va durer 3 heures, la session, tu vois. Genre, tu fini, t'es rincé. Ça a duré 3 heures et les inconvénients, si ce que je veux arrive, jusqu'à temps qu'on fasse, du coup, on va faire tomber le fantasme. En fait, c'est quoi? Si on regarde l'échec, c'est le cauchemar. Donc, on va regarder tout le bénéfice à ce que le cauchemar arrive. Et le non-échec, du coup, c'est le rêve, c'est le fantasme. Du coup, là, ça veut dire qu'on perçoit plus de bénéfices que d'inconvénients. Et donc, là, c'est pareil, on va passer 40, 50 inconvénients à noter jusqu'à temps que le cerveau voit vraiment l'équilibre. Et à ce moment-là, on rentre vraiment dans une philosophie de soit je gagne, soit j'apprends. Mais c'est pas au niveau intellectuel, c'est vraiment au niveau corporel. Et là, ça change tout parce que du coup, c'est incarné. Incarné, c'est incarnis, c'est vraiment dans la chair. Et là, on sent que bah, l'athlète, il y va avec... quand on demande aux athlètes qu'on a accompagnés, alors peu importe le niveau, mais moi, je prends souvent le référentiel du haut niveau et des Jeux Olympiques parce que c'est quand même marquant. Quand on voit Chloé, ce qu'elle met dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, elle arrive avec la foi en compétition, que quoi qu'il arrive, c'est parfait, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce que là, on arrive vraiment à être centré sur le processus, du coup, sur qui on est en train de devenir et non plus sur le résultat. Et là, ça change tout. À chaque fois, aux athlètes, je leur demande gagner est une cause ou un effet. Ils font, après réflexion, ouais, c'est un effet. C'est quoi la cause qui génère cet effet? Si je fais des bons gestes, ok, c'est quoi la cause qui génère le fait que tu vas faire des bons gestes? Ah bah, c'est qui je suis. Si je suis serein, technique, tactique, j'augmente le potentiel d'obtenir le résultat. Donc, on va se centrer sur qui on est en train de devenir, devenir plus excellent à chaque compétition, devenir meilleur à chaque compétition. Et après, le résultat, bah, justement, on arrive à lâcher prise parce qu'on sait que si le résultat arrive, bah, tant mieux. S'il arrive pas, bah, c'est qu'on a encore besoin d'apprendre pour passer à l'étape supérieure.
Ouais. Et se concentrer sur l'être, du coup.
Ouais, exactement. Et sur la cause qui génère l'effet, quoi.
Ok. Hyper intéressant, effectivement, de déconstruire le fantasme, d'embrasser, entre guillemets, le cauchemar. Je trouve que c'est hyper pertinent. Donc, ça fait des super exercices pour les auditeurs et vous savez un peu déjà comment les bosser. Si vous voulez aller plus loin, il y a pas mal de réponses et de, vous êtes beaucoup guidé dans les livres que tu as écrit, donc vraiment je les recommande toujours. Et enfin, je voulais t'amener sur un troisième blocage qui est peut-être la peur de décevoir. Ça rejoint un petit peu la peur des autres tout à l'heure. C'est encore plus spécifique, mais tu vois, je l'entends souvent avec les athlètes, souvent dans leur discours. Une fois que tu as performé une première fois, tu as des sponsors, tu as un staff, tes parents aussi, tu vois, certains ont aussi envie de rendre fier leur entourage parce que leur entourage c'est beaucoup. Parfois, on parle de sacrifice, hein, de leur entourage pour leur carrière. Et ça crée un énorme poids sur les épaules des athlètes qui sont parfois, tu vois, certains, des personnalités un peu plus rêveurs, rêveuses. Et en fait, le jour où ça commence à se professionnaliser, le jour où il y a de l'enjeu, eh ben, c'est pas forcément pour eux qu'ils ont peur, mais j'ai l'impression que c'est la peur pour les autres. Si on essaye de déconstruire un petit peu cette peur de décevoir, comment est-ce que toi tu l'aperçois, d'où elle vient et comment est-ce que vous arrivez à la résoudre?
Ouais, alors du coup, la peur de décevoir, déjà quand on dit peur de décevoir, ça veut dire qu'on perçoit que si on n'arrive pas à avoir le résultat, il y aura plus d'inconvénients que de bénéfices pour les autres. Encore une fois, ouais, c'est ça. Donc là, on rentre dans le triangle Cartman, des jeux psychologiques qui sont victimes, persécuteurs, sauveurs. Donc, c'est-à-dire que moi, si j'ai pas le résultat, j'ai la possibilité de faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc, le but, déjà, c'est de sortir de ce triangle. Et quand on sort de ce triangle, ça permet à chaque être humain de prendre ses responsabilités. Et donc, ça arrive souvent, en effet, j'ai peur de décevoir mon coach, il s'est tellement investi. J'ai peur de décevoir ma famille, ils sont tellement investis, ma conjointe, etc. Alors là, du coup, j'ai plusieurs exemples. Je me rappelle avec Laura, aussi en avion, qui avait cette peur de décevoir. On est allé dans le passé et on a regardé des fois où elle avait perdu et c'était quoi les bénéfices pour elle et pour ses proches. Et là, je me rappelle, juste en faisant ça, en fait, elle prend le déclic et fait « Ah ouais, mais en fait, j'ai zéro risque de décevoir mes parents. Mes parents, ils sont juste déçus pour moi. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont m'abandonner ou que ça va mal se passer, etc. En fait, ils sont juste tristes pour moi, en fait. » Et juste ça, elle a vu le poids qui était tombé. Donc les gens, souvent, on va croire qu'on a peur de les décevoir, mais souvent, les gens qui nous aiment réellement vont être déçus pour nous et non pas déçus pour eux. Parce qu'ils nous aiment, ils ont envie qu'on réussisse et du coup, ils ont envie qu'on fasse du mieux. Et donc déjà, juste de voir ça, en fait, ça permet de faire tomber un poids. Après, il y avait un autre exemple avec un joueur en gaming, ouais, c'est ça, en foot. Et je me rappelle, lui, il avait encore peur de décevoir. Pourquoi ? Parce que dans ses entraîneurs passés, son coach passé, il avait vu qu'il l'avait vraiment déçu et ça s'était mal passé et tout, genre... Et donc là, c'est quoi ? Donc là, la première étape, c'est qu'il avait vu déjà que, un, il s'était laissé projeter les rêves de son coach sur lui. Mais c'est pas son coach qui joue, hein, c'est lui. Et du coup, après, en faisant justement les bénéfices qu'il avait perçus de la déception pour son coach, après, il a vu que c'était trop pesant, que la relation était toxique, et grâce à ça, il avait quitté son club pour un autre club où là, justement, les autres s'en fichaient qu'il gagne ou qu'il perde. En fait, ce qu'il voulait, c'était qu'il s'amuse. Et forcément, les gens sont contents quand il y a la victoire et un peu plus tristes quand il y a la défaite, mais c'est pas grave. Donc, simplement en faisant ça, nous, ce qu'on fait, du coup, justement, quand la peur de décevoir reste présente, on va regarder que souvent, s'il y a une peur de décevoir, c'est que je perçois que l'autre s'investit. Par exemple, ouais, mais il fait des sacrifices pour moi. Par exemple, mon coach, il fait des sacrifices pour moi. Ok, c'est quoi le trait de caractère que tu admires chez lui ? Bah, il va mettre de côté certaines choses pour se centrer sur m'aider. Ok, quand est-ce que tu exprimes ce trait de caractère ? Donc, on fait une dépolarisation inversée jusqu'à temps que l'athlète voit les inconvénients pour lui qu'il perçoit que son coach ou son entraîneur ou sa famille s'investissent autant et les bénéfices si c'était l'inverse. Jusqu'à temps qu'on enlève, pas cette autorité, mais le fait que j'attribue un trait de caractère à l'autre qui est plus bénéfique que d'inconvénient. Tu vois, pour être totalement détaché et que l'athlète voit que, ah oui, mais attends, mais si l'autre fait autant de sacrifices, c'est qu'il y a peut-être un intérêt. En fait, on est deux, on est en train de co-créer ça. Ouais. Pour se détacher et se dire, bah après, en fait, j'ai pas à le décevoir. Moi, je suis pas responsable de comment il va réagir. Moi, je fais de mon mieux sur le terrain, mais si mon entraîneur le prend mal, vraiment parce qu'il se sent déçu, et en mode, t'as vu les sacrifices que j'ai fait pour toi et tu fais ce résultat, bah, c'est pas ton problème, en fait. Change de coach, tu vois, en gros. Tu vois, c'est juste ça. Donc, c'est important de rentrer dans des relations où on n'attribue pas et on ne s'attribue pas la capacité de faire du mal à quelqu'un d'autre ou pas. À partir du moment qu'on est athlète ou entrepreneur ou étudiant, peu importe, et qu'on fait de notre mieux en tant qu'être humain, si quelqu'un est déçu parce qu'on n'a pas eu le résultat alors qu'on a fait de notre mieux, on ne peut rien faire pour ça. Donc, c'est arriver à vraiment se détacher des attentes que les autres peuvent avoir sur nous. Parce que quelqu'un qui projette ses rêves sur nous, on ne peut pas. Là, en parlant, je vois l'exemple sur des clubs collectifs. T'imagines des footballeurs professionnels qui jouent devant 50 000 personnes, à chaque fois, s'ils prennent la responsabilité de « je peux décevoir chaque individu dans le club », c'est pesant, quoi, en fait. Donc, ouais. On peut pas, quoi. Donc, si les gens projettent leurs rêves sur vous, bah, c'est leur problème, en fait. Les gens, à chaque fois, les gens, ils ont qu'à prendre le t-shirt et aller courir, quoi.
C'est un vrai travail à faire. Et je pense, effectivement, le paradoxe grandit à hauteur que l'athlète... prend aussi de l'ampleur, tu vois, et prend son envol. Mais en tout cas, ce que je trouve très intéressant en abordant ce sujet-là, c'est que bah, d'un côté, effectivement, ça permet aussi de regarder les relations qu'on peut avoir avec son entourage, avec son staff, et aussi peut-être avec ses supporters. Ça permet de porter un autre regard et de voir aussi quelles sont les relations peut-être un peu moins saines,
ouais,
et un peu plus toxiques d'un côté.
Exactement, ouais.
Et ça permet aussi de se remettre soit en question, sur quelle est la toxicité ou quelle est la part de responsabilité qu'on a aussi dans ces relations. Parce que des fois, on peut avoir tendance à projeter trop de choses, tu vois, sur un entraîneur qui va être déçu, alors qu'en fait, c'est peut-être juste soi-même où on se dit, tiens, là, la personne va être déçue, alors qu'en fait, non, c'est son métier, elle est là pour ça, elle est là pour nous accompagner, donc elle y met de l'engagement, c'est normal. Mais à l'inverse, bah voilà, si on perd, on est une équipe et c'est normal qu'on soit déçus ensemble, quoi. Donc, bon, très intéressant. Donc, on a vraiment vu les trois blocages les plus fréquents. On va aussi, dans les épisodes suivants, essayer au maximum de pouvoir apporter des clés supplémentaires pour les résoudre.
Donc, si je devais résumer, chez les athlètes que l'on accompagne, les trois blocages principaux que l'on peut voir, c'est le premier, c'est donc être polarisé, par exemple, sur l'arrogance. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à s'autoriser à prendre notre place, qu'on va dire, ah mais si je dis mon objectif, c'est arrogant de dire ça, qui suis-je pour dire ça? Donc là il y a un peu le syndrome de l'imposteur qui est ici. Le deuxième qui serait la peur de l'échec. Donc la peur de l'échec qui fait que justement notre peur de perdre devient plus forte que notre envie de gagner. C'est-à-dire que là on est en train de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices si on n'a pas le résultat sous la forme attendue. Et le troisième serait la peur de décevoir. Donc là où on se dit mais si je perds ça va être horrible pour mes proches, alors qu'en réalité les gens qui nous aiment réellement s'en fichent que l'on gagne ou qu'on perde. C'est juste pour nous qui sont envie qu'on gagne.
Merci beaucoup Pierre pour cet épisode du jour. Et puis voilà encore une fois, si les auditeurs souhaitent aller un petit peu plus loin, ils peuvent soit vous contacter sur Instagram ou le site l'Académie de la Haute Performance. Si vous avez envie d'une très bonne lecture sur la préparation mentale, et je vous recommande le dernier, la préparation mentale gagnante, parce que là, du coup, on voit vraiment les trois blocages en profondeur avec les témoignages que tu as dit d'Alexandra, de Laura ou de Johan. Et comme ça vous permettra de pouvoir mettre en application tout de suite. Et ben, je vous dis à bientôt. Salut Pierre.
Salut Marthe.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Prochaine pour une prochaine interview. Ciao.